Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'était il y a 10 ans, la réélection contestée du président Mahmoud Ahmadinejad à la présidence de l'Iran jetait une partie de la population iranienne et notamment de la jeunesse dans les rues du pays pour s'opposer à une élection considérée comme volée, réclamer plus de liberté, de démocratie, plus d'ouverture. Et pourquoi pas une réduction du poids du clergé dans la conduite du pays. C'est ce que l'on a appelé le mouvement vert, un mouvement réprimé dont les leaders réformateurs ont été placés et sont toujours, pour les plus emblématiques d'entre eux, en résidence surveillée. 10 ans après le mouvement vert, quelle opposition, quelle ouverture démocratique en Iran? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Azadeh Kian, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de l'Iran, professeur de sociologie à l'université Paris 7 Diderot, auteur de « Femmes et pouvoir en islam », c'est paru en mars 2019 aux éditions Michalon, et de « L'Iran, un mouvement sans révolution, la vague verte face au pouvoir mercanto-militariste », et c'est également aux éditions Michalon. Et Armin Arefi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste international à l'hebdomadaire Le Point et auteur de « Un printemps à Téhéran, la vraie vie en République islamique ». C'est sorti en février 2019 aux éditions Plomb. 10 ans après le mouvement vert, la réalité du pouvoir est détenue par le guide suprême de la révolution, l'ayatollah Ali Khamenei. C'est vraiment le chef suprême ou on a plutôt affaire à une oligarchie, Azadeh Kian?
Ben disons que c'est le chef suprême du fait de la regard de la Constitution, puisque c'est lui qui doit effectivement présider à l'ensemble des trois pouvoirs, judiciaire, exécutif et législatif. En même temps, on voit le guide en tant aussi que chef des armées. Donc, effectivement, il a un pouvoir très important. Et maintenant, dans le cadre des négociations internationales, y compris aujourd'hui, par exemple, sur les États-Unis et l'Iran, enfin, la négociation ou non entre les États-Unis et l'Iran, ben, on voit que finalement c'est le guide qui s'exprime avant même d'autres responsables. Donc son pouvoir est très très important et il a en particulier les gardiens de la révolution sous son autorité. Mais de là à dire qu'il s'agit d'une seule personne qui décide, non, je pense qu'il y a de nombreuses institutions qui participent à la prise de décision et parfois n'ont pas du tout nécessairement les mêmes, disons, estimations ou avis concernant les questions du jour.
On dit qu'il est malade, Armin Arefi. Est-ce que ça joue sur son pouvoir?
Bon, ça fait
longtemps qu'on
dit une quinzaine d'années justement qu'on dit ceci. Il a été apparemment soigné, opéré pour un cancer de la prostate. Bon, d'après les images que l'on peut voir de lui, jusqu'à même aujourd'hui, il est toujours dans une certaine forme. Maintenant, le jour où il disparaîtra, viendra la question de sa succession, qui n'est toujours pas réglée aujourd'hui, et justement de l'identité du prochain guide suprême, ou même de la nature du pouvoir à la tête de l'Iran, à savoir si ce sera un guide suprême, si ce sera un conseil de religieux, dépendra l'avenir du pays.
Les gardiens de la révolution dont vous avez parlé, Azadeh Kian, ils lui sont soumis ou c'est une force un petit peu autonome parmi les intérêts que vous évoquiez, les différents intérêts?
Écoutez, au regard de la Constitution, ils sont sous l'autorité du guide. En revanche, et ils ont pris un tel pouvoir militaire, économique, financier, et en particulier à travers la branche extérieure qui s'appelle Al-Quds et qui est très active, comme on le sait, en Syrie, au Liban, en Irak, etc., que parfois on peut se poser la question de savoir qui domine qui. Est-ce que c'est le guide qui a l'autorité sur les gardiens ou ce sont les gardiens? Néanmoins, si vous voulez, c'est le guide, bien sûr, qui nomme le chef des gardiens de la révolution. D'ailleurs, il vient de changer encore le commandant en chef des gardiens de la révolution il y a un mois à peine. Donc, de ce fait, les gardiens ne font rien qui aille à l'encontre des intérêts du guide ou de ses commandements, on va dire.
Armin Arefi, sur cette analyse du pouvoir, il est extrêmement personnel en Iran, ou est-ce que, eh bien, il y a quand même un président de la République, alors on se demande souvent quel est son poids, Hassan Rouhani. Comment est-ce que c'est, j'ose pas dire partagé, mais comment est-ce que c'est organisé tout ça?
En fait, il n'est pas si personnel que ça, car le guide suprême a d'une certaine manière quand même eu un rôle d'ultime arbitre de toutes les tendances qui peuvent s'exprimer en Iran, conservatrice, modérée ou réformatrice. Ce que disait Madame Kian est effectivement très juste. D'après l'organigramme, le guide est à la tête des gardes de la révolution. Maintenant, ces derniers ayant acquis un poids très important dans tous les pans de la société, dans tous les pans de l'Iran, notamment au niveau économique, on peut aujourd'hui parler d'État dans l'État. Mais le dernier mot revient au guide. Il est là pour, comme je le disais, arbitrer les différentes tendances. Il faut savoir que sur l'accord sur le nucléaire, il y avait justement la tendance des réformateurs qui étaient pour des négociations avec les Américains qui ont abouti à l'accord, les conservateurs qui étaient davantage contre, car ils n'avaient pas confiance aux États-Unis, lui-même le guide qui est plutôt sur la ligne, et même totalement sur la ligne des durs, avait déclaré qu'il ne faisait pas confiance aux États-Unis, mais avait quand même donné un mandat au gouvernement Rouhani pour négocier. Force est de constater qu'aujourd'hui, après le retrait américain de l'accord sur le nucléaire qui a provoqué une crise économique sans précédent en Iran, le guide peut se targuer d'avoir annoncé dès le départ qu'il ne fallait pas faire confiance aux États-Unis. D'ailleurs, on l'a vu aujourd'hui en recevant le Premier ministre japonais. Il lui a dit « Je vous respecte beaucoup, monsieur Abe, vous venez d'un grand pays, mais je ne parlerai pas de Donald Trump.
» où en est l'Iran démocratiquement parlant, électoralement parlant? Il y a des élections qui sont organisées régulièrement. On entend évidemment parler de cette élection présidentielle tous les 4 ans. Est-ce qu'il y a d'autres élections pour les régions, pour les mairies à Zadekian?
Oui, bien sûr. Il y a tous les 4 ans les élections municipales, locales, où on a vu effectivement aussi beaucoup de femmes qui étaient candidates, qui le sont. Vous savez que l'ensemble des candidats à l'ensemble des élections en Iran sont filtrées par le conseil de surveillance qui est constitué de 6 membres cléricaux conservateurs.
Et Ils sont tous conservateurs
et ils sont d'ailleurs nommés directement par le guide. Mm-hmm. Qui détiennent un pouvoir énorme. C'est-à-dire que c'est bien sûr des personnes qui sont considérées comme n'étant pas totalement sur la même ligne que le guide, etc., ont du mal à se faire habiliter. En revanche, pour les municipales, par exemple, la surveillance n'est pas aussi importante. Après, vous avez des élections législatives tous les 4 ans pour le Parlement islamique, et puis l'Assemblée des experts qui élit le guide et le destitue également, et est élue en réalité. Sauf que aucune de ces institutions n'a autant de pouvoir, bien sûr, que le guide suprême. Alors l'exemple que Armin Arefi a donné est très juste, même aujourd'hui, vous voyez, Shinzo Abe est en Iran, le premier ministre japonais. Le guide lui dit, j'ai jamais fait confiance aux Américains, il fallait pas négocier avec eux, j'avais raison, et même aujourd'hui, je dis qu'il faut pas négocier. Mais en revanche, c'est pas la même chose, le président Rouhani ne dit pas la même chose. Mmh. Et donc, il faut jamais oublier que l'Iran n'a pas, enfin, le régime islamique d'Iran n'a pas une voix unique, mais des voix multiples qui, d'ailleurs, je dirais le secret de son maintien au pouvoir.
Alors justement, j'y viens, Armin Arefi, j'ose pas parler d'opposition interne au régime, mais il y a quand même encore des courants au sein du clergé. Cette division entre conservateurs et réformateurs, elle existe toujours au sein du clergé chiite iranien?
Elle existe au sein même de la vie politique iranienne, elle existe, mais de moins en moins. Il faut savoir que la République islamique est basée sur la légitimité religieuse, le guide suprême est le représentant du 12e imam et donc de Dieu sur Terre, et sur la légitimité populaire, à savoir le suffrage universel pour les élections présidentielle, législative, municipale et de l'Assemblée des experts. L'Assemblée qui est là pour nommer où destituer le guide. Maintenant, il faut savoir que comparé à certains pays de la région, comme l'Arabie Saoudite, le Qatar ou les Émirats, on est dans un pays quand même beaucoup plus démocratique, si j'ose dire, en tout cas. Mais le fait est que on a ce fameux conseil des gardiens de la Constitution qui est là d'ores et déjà pour filtrer des candidatures et qui dépend d'une certaine manière du guide. Donc, on a au sein de chaque élection, au moment de chaque élection, comme la présidentielle, des candidatures qui sont filtrées. 90% des candidatures
sont filtrées. C'est un système verrouillé, quoi.
C'est un système verrouillé, mais à partir du moment où les candidatures sortent du chapeau, on a des gens qui sont tous inféodé à la République islamique. De toute façon, toute personne qui serait contre ce régime politique ne peut pas se présenter. Mais après, il y a un véritable débat et de véritables tendances différentes entre réformateurs, modérés, conservateurs. La vérité aujourd'hui, c'est que on a, et la question qui se pose aujourd'hui et qu'on doit se poser, c'est la réforme est-elle possible en Iran? Parce que l'arrivée d'un réformateur au pouvoir, ça date pas de Rouhani d'ailleurs, qui n'est pas un réformateur, ça date de Khatami. Khatami, élu à la surprise générale dès le premier tour, massivement par les Iraniens, 97, qui avait promis le changement. Or, ce changement n'est jamais arrivé.
Vous voulez ajouter quelque chose à Véricane?
Oui, je voulais juste dire que le régime islamique d'Iran est un régime plébiscitaire, mais c'est pas du tout un régime démocratique. Il faut opérer cette distinction entre plébiscitaire et démocratique d'une part. D'autre part, effectivement, même le président réformateur Khatami a annoncé à maintes reprises récemment que les gens, les électeurs, n'iront plus voter. C'est-à-dire que même cet aspect plébiscitaire du régime a été mis dans la, entre parenthèses, du fait des agissements des conservateurs, des ultra-conservateurs et à leur tête le guide de la révolution. Donc il ne faut plus compter sur les électeurs iraniens d'aller choisir entre le moins mauvais, si vous voulez, ce qui a été le cas jusqu'à aujourd'hui, puisque les électeurs et électrices ont de nouveau voté en 2017 pour le président Rouhani, qui leur a promis des tas de choses, et finalement on constate que le moment venu, Rouhani se situe dans le camp aussi du guide, et de plus en plus la preuve en est que quand les jeunes des classes populaires étaient dans la rue en décembre 2017, janvier 2018, le président Rouhani a pris bien sûr la partie pour le guide et pas pour ce peuple qui est affamé, ce peuple qui est désœuvré, ce peuple qui cherche à travailler tout simplement et qui est contre la corruption qui gangrène ce régime. Et donc les gens sont déçus, les électeurs iraniens sont, et les électrices sont très déçus.
Ça veut dire qu'il y a une opposition réelle, populaire, mais qu'elle n'est pas organisée. Il n'y a pas de leader de cette opposition populaire, Armin Arefi. Ça ne peut pas exister.
Il n'y a pas d'opposition organisée, tout simplement parce que le régime ne laisse aucune opposition éclore ou aucun leader éclore. Aujourd'hui, les deux anciens, enfin, les deux leaders du mouvement vert que vous citiez au début de votre émission, Mirosel Moussavi et Meduka Roubi, sont quand même assignés à résidence et donc d'une certaine manière emprisonnés chez eux depuis maintenant, donc 2011-2019, c'est-à-dire 8 ans qu'ils sont assignés à domicile. Donc la République islamique n'a pas voulu prendre le risque de les emprisonner dans la prison politique d'Evin, mais ils sont en prison chez eux. C'est ça aujourd'hui la réalité.
Ils viennent d'obtenir l'autorisation d'avoir la télévision par satellite.
Et téléphone portable pour Moussavi, mais pas encore pour
Karoubi. Télévision satellite d'ailleurs, que bon, voilà, ce n'est pas assez d'après leur famille, on les comprend. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter que ces chaînes satellitaires sont officiellement interdites en Iran, sauf que ça fait 40 ans que les Iraniens ont les yeux rivés dessus. Mais pour revenir justement à l'opposition, c'est aujourd'hui une des forces de ce régime, d'une certaine manière, c'est d'avoir réussi à annihiler toute forme d'opposition organisée à son régime, de par justement les élections où il y a un véritable débat, mais entre les candidats qui ont été filtrés par le régime, et de par également les nombreuses arrestations qui ont eu lieu de personnes qui, soit leaders syndicaux, soit leaders politiques, qui ont fini dans les geôles iraniennes. Parlons, alors même s'il ne s'est pas un leader, mais de l'illustre avocate Nasrin Sotoudeh, qui, comme d'autres de ses frère est en prison depuis maintenant un an, aujourd'hui même, et qui a été récemment condamné à 38 ans de prison. Donc, pas d'opposition en interne, pas de réelle opposition en interne, et une déception de la population, comme le disait Madame Khan. Moi, j'étais justement en Iran pour la réélection de Rouhani, je me souviens à l'époque, beaucoup d'Iraniennes et d'Iraniens à Téhéran et ailleurs allaient voter, certains d'entre eux pour la première fois, quand je leur posais la question, mais attendez, vous savez très bien que foncièrement, ce régime ne va pas changer avec votre vote. Ils m'ont dit oui, mais on a payé déjà le prix de notre abstention. C'était en 2005, lorsqu'on s'était abstenu de voter, déçu par les réformes non tenues à l'époque du président réformateur Mohamed Khatami, les promesses non tenues. Ils avaient eu par la suite, ils s'étaient abstenus de voter, ils avaient eu par la suite Ahmadinejad et 8 ans de mauvaise gestion économique et de crise avec le monde. Donc aujourd'hui, c'est la principale crainte qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, avec cette déception énorme de l'électorat iranien, que ça fasse d'une certaine manière le jeu du régime qui a de toute manière toujours 20% de la population, soit par idéologie, soit par intérêt, qui lui est acquise et qui vote conservateur, ce qui risquerait d'arriver au cours de la prochaine présidentielle.
Armin Arefi parlait à l'instant de la répression, hein, de toute forme d'opposition syndicale, de la société civile. Comment fonctionne cet appareil appareil répressif à Zadekian?
Écoutez, en Iran, il y a le service de renseignement officiel et le service de renseignement officieux. Alors, le service de renseignement officiel dépend du gouvernement et officieux dépend des gardiens de la révolution. Et le plus redouté, c'est effectivement le service de renseignement des gardiens de la révolution, parce que même le gouvernement, et je dirais même le président Khatami, n'a absolument aucun mot à dire concernant donc ce service des gardiens de la révolution. Et donc, c'est eux qui décident en amont qui doit être arrêté, qui est nuisible à leur pouvoir ou au pouvoir du régime, qui, par exemple, hier, il y a un jeune prisonnier politique qui a été assassiné en prison. Mmh. Et il y a, vous avez effectivement des syndicalistes, vous avez des défenseurs, des militantes des droits humains et de femmes, mais vous avez également les défenseurs de l'environnement. Il y en a une dizaine aujourd'hui emprisonnés qui risquent la peine capitale pour avoir défendu l'environnement. Donc, c'est un régime arbitraire et il y a le pouvoir judiciaire qui est à l'heure actuelle, comme d'habitude, dirigé par un ultra-conservateur nommé par le guide, qui, par exemple, effectivement, laisse faire. Cette répression, c'est l'œuvre surtout des ultra-conservateurs et des conservateurs, hein, en particulier le judiciaire, et puis les renseignements des gardiens de la révolution, beaucoup, beaucoup plus que le gouvernement.
On voit quand même des Iraniens et des Iraniennes, notamment d'ailleurs aussi, s'exprimer à travers les réseaux sociaux. On voit régulièrement des Iraniennes qui enlèvent leur voile sur Instagram, par exemple. Ça continue tout ça, alors que normalement, en principe, l'accès aux réseaux sociaux est coupé. Armin Arefi.
Alors effectivement, en principe, il y a certains sites, pas tous, comme Facebook ou Twitter, qui sont censurés, sauf que les Iraniens, ça fait 40 ans qu'ils se font un plaisir de contourner la censure pour le cas des réseaux sociaux, donc avec les applications VPN qui, certes, diminuent la connexion Internet, mais vous permettent d'accéder à n'importe quel site. Donc, on voit aujourd'hui les Iraniens qui, de fait, en raison de l'augmentation de cette répression d'un problème de manque de réforme au sein de la société, qui justement ont les yeux rivés sur les réseaux sociaux et qui vivent comme beaucoup de jeunes ici en France, qui draguent sur leur smartphone, qui font de la pub sur leur smartphone, qui s'informent sur leur smartphone, soit autant de choses qui n'étaient pas autorisées à faire il y a à peine une quinzaine d'années, car il n'y a pas de presse libre en Iran, car les relations sexuelles sont toujours interdites officiellement, en tout cas selon le mariage, et surtout parce que là, ça fait 40 ans que la télévision d'État leur montre la même chose. Maintenant, pour répondre à votre question, on voit tous les jours aujourd'hui sur les réseaux sociaux de plus en plus d'Iraniennes de cette nouvelle génération, la génération des années 90, qui est d'une certaine manière beaucoup plus courageuse que celle qui a fait la révolution, car ils n'ont pas vécu la répression de l'époque, qui osent justement s'afficher tête nue sur Instagram en train de danser, parfois même le nombril à l'air, pour faire en fait ce que font n'importe quel occidental dans son pays, sauf qu'en Iran c'est interdit. Et plus les autorités essaient justement de faire des exemples en condamnant telle ou telle personne à des peines très importantes de prison, plus elles continuent. On a vu récemment un chanteur exilé qui s'appelle Sassi, qui a appelé donc de musique pop rock iranienne, qui a appelé justement ses compatriotes à réinterpréter son titre, ce qui a été fait jusque dans les classes. On voit donc des Iraniennes de 16, 17, 18 ans qui dansaient
sur les tables. Oui.
Voilà. D'ailleurs, ce qui a forcément déplu et forcé. Donc,
c'est ce qu'on appelle en somme, pour résumer, parce qu'on ne va pas entrer dans les détails. Effectivement, cette société civile iranienne désobéit. Donc, vous avez effectivement cette désobéissance civile à tous les niveaux. Qu'il s'agisse au niveau des écoles, là où les écolières dansent sur la musique de Sassi Mankin, ou des femmes qui laissent glisser leur voile, les défenseurs de l'environnement qui continuent, etc. Il y a quand même des organisations non gouvernementales qui continuent à exister dans ce pays, et aussi des groupes informels. La société civile iranienne continue à être dynamique, et je pense que, vous savez, rappelons-nous, en 2009, Ahmadinejad a appelé les gens du mouvement vert les poussières. Mmh. Ces poussières, maintenant, sont partout dans le pays, et le seul espoir à ce que le changement vienne de l'intérieur.
Et la poussière ne veut pas retomber, manifestement. Merci Azadeh Kian et merci Armin Arefi d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Arnaud Lassoa à la coordination, Vanadis Feuille à la documentation et à la réalisation. Aujourd'hui, Valentin Vaner. Vous pouvez nous retrouver retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio rubrique émission. Vous pouvez aussi participer au débat sur les réseaux sociaux. Prochain débat lundi, même heure, même endroit. Demain, ce sera les dessous de l'Infox. Bonjour chez vous.